Vivez un ramadan gourmand avec le renard. Semoule, farine et couscous, numéro 1 de mère en fille, depuis plus de 50 ans.
18h, 19h, Tour du Monde avec Manuel Mariani sur Beurre FM.
Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être fidèles au programme du Ramadan sur Beurre FM. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle escale du Tour du Monde que vous pouvez retrouver tous les samedis et dimanches de 18h à 19h pendant tout le mois de Ramadan. Nous partons chaque jour dans un nouveau pays, vous le savez, pour un savoureux voyage culturel, mais aussi culinaire tout autour du monde afin de découvrir les traditions locales du Ramadan ainsi que les recettes emblématiques du Ftour ou de l'Iftar dans ces pays. Alors pour cette nouvelle destination du Tour du Monde, nous avons choisi de poser nos valises au Pakistan. C'est un pays qui est culinairement très riche, qui comporte quelques similitudes avec la cuisine pendjabi du nord de l'Inde, mais aussi avec malgré tout des influences qui viennent d'Asie centrale, du Moyen-Orient. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Zain Sakrani, qui est attaché touristique de l'ambassade du Pakistan. Bonjour Zain.
Oui, bonjour. Comment allez-vous?
Très très bien, et vous?
Très bien, vous m'entendez bien?
Ah oui, absolument, on vous entend très bien et merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de la tradition du Ramadan au Pakistan. Alors, pour commencer, je vous propose déjà, pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas bien la cuisine pakistanaise, c'est vrai qu'il y a beaucoup de restaurants dits indiens en France, mais qui sont souvent des restaurants tenus par des Pakistanais et qui font de la cuisine du nord de l'Inde, hein, qui est la cuisine Exactement. Du Punjab. Et le Punjab, c'est une région qui est commune, qui est à cheval en fait sur l'Inde et le Pakistan. Donc, quels sont les points communs entre ces deux cuisines? Je pense qu'il y a une cuisine pendjabi qui est un peu pareille, avec quelques variantes peut-être au nord de l'Inde et au sud du Pakistan.
Oui, exactement. En fait, au Pakistan, il y a beaucoup de diversité entre le nord et entre le sud. Et après, avant 1947, l'Inde et Pakistan, c'était le même. Donc, effectivement, ça vient. Il y a une grande similarité entre les deux pays. Donc, par exemple, concernant la gastronomie au Pakistan, le nord, on mange beaucoup des épices, et le sud aussi, on mange beaucoup des épices. Beaucoup d'épices, mais on mange moins piquant dans le nord que le sud.
Oui, pour préciser, Zain, c'est vrai que quand on parle de cuisine épicée, hein, ça veut dire que c'est une cuisine avec beaucoup d'épices, mais toutes les épices ne sont pas forcément pimentées. Hein, le curcuma, Exactement. Par exemple, qui est une épice qu'on utilise beaucoup au Pakistan, ou le cumin, ce sont des épices, évidemment, mais ça ne veut pas dire que... Donc ça peut faire une cuisine épicée, mais qui n'est pas forcément pimentée. Mais c'est vrai qu'au sud, elle est beaucoup plus pimentée.
Exactement. Dans le sud, c'est beaucoup pimenté. Par exemple, un plat biryani, on mange beaucoup dans le sud. Ça, c'est du curry avec beaucoup de différents épices. Par exemple, le piment rouge. Dans le sud, le piment vert aussi, par exemple, on met beaucoup dans le curry. Et c'est vraiment très très typiquement pakistanais. Dans le sud. Ça s'appelle un plat biryani.
D'accord. Alors, justement, beaucoup de gens pensent que le curry, c'est une épice. Mais en fait, le curry, c'est un mélange d'épices, on est d'accord? Et il existe beaucoup de mélanges différents.
Exactement. En fait, le curry, ça, c'est un sauce du curry, un sauce mélangé avec beaucoup d'épices. Ça pourrait être pimenté, ça pourrait être piquant, piquant et pas piquant.
D'accord, oui, il y en a avec du lait de coco, d'autres sans coco, enfin voilà, il y a vraiment
Exactement.
Des...
D'ailleurs, ouais.
Curry, en fait, quand on parle de curry, d'ailleurs, c'est presque une erreur, on doit plutôt parler de masala, je crois. Hein.
Oui, on peut dire aussi masala aussi, c'est plus desi, on peut dire, c'est plus dans notre langue, on utilise plus masala. Masala, ça veut dire les piments.
D'accord, oui, c'est le mélange d'épices effectivement qui permet de faire des currys. Là, c'est un plat effectivement, c'est comme si on disait un ragoût en France. Hein. C'est un plat en sauce le curry. Alors, vous le disiez, c'est une cuisine très diverse. Le Pakistan, elle est variable d'une région à l'autre. Il y a quatre grandes ethnies, je crois, au Pakistan. Est-ce que chacune des ethnies a une cuisine vraiment différente et quelles sont en quoi elles diffèrent exactement?
Alors, par exemple, dans le sud, on mange. En fait, il n'y a pas grande différence, mais par exemple, le nord, on mange beaucoup des épices qui sont pas très piquants. On mange beaucoup de cannelle, par exemple, le nord. On mange beaucoup de curcuma partout. Hein. Après, le nord, on mange beaucoup des herbes.
D'accord, oui. Donc là on voit l'influence qui est plus d'Asie centrale et du Moyen-Orient qui est assez présente dans certaines cuisines pakistanaises au niveau des régions.
Exactement, exactement.
Alors, une particularité aussi au Pakistan, c'est qu'on mange effectivement pas mal de bœuf. C'est une différence avec l'Inde, qui a une culture religieuse un peu différente par rapport à celle du Pakistan.
Exactement. Alors, au Pakistan, on mange beaucoup du bœuf. On mange beaucoup la viande d'agneau aussi. On mange du poisson. On mange du poulet aussi. Et après, on a différents. Par exemple, on mange beaucoup de choses dans le bœuf. On fait beaucoup différents plats avec le bœuf.
Ok. Alors, quel est on pourrait parler de la blanquette de veau ou du bœuf bourguignon en France. Est-ce qu'il y a un plat comme ça qui représente vraiment, qui serait un ambassadeur, puisque vous travaillez vous à l'ambassade du Pakistan en France, est-ce qu'il y a un plat comme ça pakistanais qui serait un peu l'ambassadeur gastronomique du Pakistan? Un ou plusieurs d'ailleurs, hein, vous pouvez en citer deux, trois.
Exactement. Alors, il y a plusieurs. Je ne peux pas dire qu'il y a un plat qui est l'ambassadeur, mais il y a plusieurs. Par exemple, le premier, ça c'est le biryani. Donc, on peut faire le biryani avec du bœuf. On peut aussi faire le barbecue du bœuf aussi, différentes parties du bœuf. On peut aussi faire les pieds du bœuf.
D'accord.
C'est un plat qui s'appelle paya. Paya, c'est très typiquement, c'est vraiment pakistanais. Et on bouille les pieds du bœuf pendant des heures et des heures, et on mange ça, et ça c'est très bien. Toute la nuit, on cuisine ça toute la nuit. Le foie de bœuf aussi.
D'accord, des abats, donc pas mal.
Exactement, donc voilà, le bœuf haché par exemple, avec du pomme de terre, voilà, donc on a plein en fait.
Oui, alors est-ce que ces viandes, quand on les fait au barbecue, est-ce qu'elles sont marinées avec des épices ou avec des herbes, et est-ce qu'on les cuit dans des fours comme en Inde, ou est-ce qu'on les cuit sur un grill? Comment sont préparées et marinées éventuellement ces viandes, et comment les cuit-on?
Alors c'est vraiment très très marrant. Au Pakistan, en fait, on fait le marinade un jour avant.
D'accord.
On peut dire ça, marinade un jour avant.
Ouais, c'est pour attendrir la viande, hein, pour que la viande soit plus tendre.
Exactement, exactement. Avec les piments rouges et aussi les piments verts, un jour avant, avec le citron par exemple. Et après, on fait avec le charbon.
D'accord. Alors ça, c'est vrai qu'on retrouve effectivement l'influence plus du Moyen-Orient dans la cuisine pakistanaise. C'est vrai que la cuisine au Pakistan, elle est très variable d'une région à l'autre. Par exemple, dans les provinces de l'est du Pendjab et dans les provinces du Sindh, elle est assez il y a beaucoup de d'aromates, d'épices, et c'est vrai que là on sent l'influence peut-être un peu de l'Asie du Sud.
Exactement. Par exemple, ici en France, on grille beaucoup de choses, mais au Pakistan, on fait sur le charbon. Et c'est pas grillé sur un grillade, ça s'est fait sur le charbon.
Sur le charbon directement.
Sur le charbon directement, voilà.
D'accord, oui, donc ça se rapproche un peu plus du tandoor qu'on connaît dans la cuisine indienne, c'est ça?
Oui, et après, par exemple, pendant le ramadan, on fait beaucoup de barbecue aussi, après le iftar, par exemple, qui peut durer aussi jusqu'à le sahur.
D'accord, oui, effectivement, on vit beaucoup la nuit au Pakistan. Ça, on va y venir dans la deuxième partie de l'émission, un petit peu sur les traditions du pakistanaise pendant le ramadan. Bon, d'ailleurs, si nos auditeurs ont des questions à poser par rapport au Pakistan et par rapport à la tradition du ramadan au Pakistan, ils peuvent nous appeler 01 53 48 3000. Je répète, 01 53 48 3000. Une chose qui est assez présente également au Pakistan, c'est la street food. Hein. Y a beaucoup de petites échoppes de cuisine de rue, hein, surtout dans les grandes villes du Pakistan. Est-ce que c'est vraiment dans la fibre, dans l'ADN du Pakistan, la cuisine de rue comme ça?
Alors, effectivement, au Pakistan, il y a beaucoup des petites stalls du repas dans les grandes villes. Par exemple, Karachi, ça c'est le sud, ou par exemple Lahore.
À Lahore, oui, ouais, beaucoup, oui.
À Lahore aussi, oui, exactement. Et après, on peut dire ça qui est le meilleur goût du Pakistan, on peut avoir dans le street food.
Oui, c'est vrai qu'en général, hein, moi qui ai pas mal voyagé et qui m'intéresse beaucoup aux cuisines du monde, c'est vrai qu'en général, pour vraiment connaître une cuisine, il faut manger dans la rue, quoi.
Exactement. Après, c'est beaucoup, beaucoup pimenté. C'est vraiment très, très piquant, mais ça a le meilleur goût.
Ouais, alors, il y a beaucoup de gens d'ailleurs quand ils voyagent qui ont peur de goûter la street food parce qu'ils ont peur de, souvent il n'y a pas de frigidaire hein, sur les marchés, alors ils ont peur de tomber malade, que ce soit pas assez frais. Mais enfin, moi, de mes souvenirs de voyage, je suis plus souvent tombé malade au restaurant que en mangeant sur les marchés dans des petites échoppes. Et c'est vrai que c'est là qu'on retrouve vraiment les goûts les plus typiques et les plus authentiques.
Après effectivement, il faut vraiment faire attention. Par exemple, les gens qui voyagent, ils n'ont pas très habitué des épices. Donc, il faut vraiment dire qu'il ne faut pas mettre beaucoup d'épices parce que c'est vrai que c'est les épices qui peuvent déranger un petit peu, oui.
D'accord. Est-ce qu'on sait à quel... Parce que c'est vrai que les traditions culinaires musulmanes ont influencé la cuisine pakistanaise il y a très longtemps déjà. Est-ce qu'on sait à quand remonte un petit peu l'influence des traditions culinaires musulmanes sur la cuisine pakistanaise? Et d'ailleurs, l'islam remonte à quand au Pakistan, vous le savez ça?
Alors, l'islam, je ne sais pas exactement les dates, mais... c'est vrai que ça depuis longtemps que l'islam ça s'est venu au Pakistan. Avant c'était les hindous, mais après petit à petit l'islam ça s'est venu vers les arabes. Et ouais, voilà.
D'accord. Alors oui, je crois que j'avais noté que les premières civilisations au Pakistan c'était les Mohenjo-Daro.
Exactement. Ouais. Ça fait oui, c'est vrai. C'était 5000 ans avant.
Ouais. Et aux alentours de 3000 ans avant notre ère, on voit déjà effectivement des choses qui sont des influences des traditions culinaires un petit peu des pays arabes comme le sésame, l'aubergine. Et puis après arrivent des épices comme le curcuma, la cardamome, le poivre noir, la moutarde qui était largement cultivée, je crois, dans la vallée de l'Indus notamment. L'islam au Pakistan, il arrive de plusieurs endroits. Comment dire, l'influence de l'Asie et du Moyen-Orient sur la cuisine pakistanaise, est-ce qu'on la retrouve dans la street food? Parce que je crois que à Karachi ou à Lahore, on trouve beaucoup des shops de street food qui font de la cuisine pakistanaise, mais un petit peu fusionnée avec de la cuisine asiatique, par exemple.
Alors, par exemple, c'est vrai que exactement comme on utilise beaucoup des épices et piments, c'est vrai, on mange tout ça dans l'Asie. Après, on mange beaucoup du beurre aussi, et même aussi on mange beaucoup du fromage au Pakistan.
Oui. Un fameux fromage qui est fait avec du lait de bouflonne, un peu comme la mozzarella d'ailleurs, dont j'ai oublié le nom d'ailleurs. Le fromage s'appelle
le panier.
Exactement. Alors ça c'est effectivement un très bon fromage qui est fait avec du lait de bouflon, alors qui ressemble pas du tout à la mozzarella en revanche, mais alors qu'on mange alors on le retrouve dans la cuisine, hein, on le retrouve dans des préparations culinaires, mais est-ce qu'on le mange seul aussi? Est-ce que comme en France, il y a la culture du fromage qu'on mange tout seul avec peut-être du pain, des galettes?
Alors non, en Pakistan, on mange pas le fromage, c'est vrai, comme en Pakistan, mais on mélange beaucoup de paniers, par exemple avec du bœuf ou avec des légumes, par exemple avec des épinards.
Oui, alors oui, ça c'est très bon, les curries aux épinards aussi. C'est pas palak panir, je crois, hein, quelque chose comme ça, le curry aux épinards, panir, oui. Si ma mémoire est bonne. Et effectivement, c'est très bon, parce que dans l'esprit des gens, un curry, c'est toujours jaune.
Oui.
Hein, c'est vrai. Exactement. Les gens vont au supermarché, ils achètent du curry, c'est une poudre jaune. Mais en fait, curry, oui, effectivement, ça peut être beaucoup de préparations différentes. Il y en a qui sont un peu plus rouges, d'autres un peu plus jaunes, d'autres qui sont verts, effectivement, comme le palak panir. Puis il y a des curries à base de lentilles aussi, hein, avec la lentille est assez présente.
Oui, exactement aussi, du lentilles de corail, différents types de lentilles aussi, on mange beaucoup avec du panier. C'est vrai qu'on fait avec du beurre aussi, on mange beaucoup du beurre aussi au Pakistan.
Le ghee, c'est ça?
Voilà, exactement.
Qui est qui est un espèce de beurre clarifié et fermenté un petit peu.
Par exemple, le matin, par exemple, quand on fait du pain, on fait beaucoup avec du ghee, même si on fait le curry, on utilise beaucoup de ghee.
D'accord.
Après, c'est vrai, c'est très très gras, mais c'est très très bon.
Oui, d'ailleurs, dans la cuisine pakistanaise, comme on aime bien avoir des sauces onctueuses, on met quand même beaucoup d'huile.
On met beaucoup d'huile.
C'est pas toujours light, mais effectivement, ça donne un côté onctueux et savoureux à la sauce. Quel type d'huile on utilise dans la cuisine pakistanaise? C'est l'huile d'arachide, de tournesol. Il y a des huiles particulières?
Alors, on utilise beaucoup l'huile tournesol.
D'accord.
Après, on utilise beaucoup le ghee. Par exemple, la région du Punjab, on utilise beaucoup du ghee.
Donc au sud, oui.
Exactement. Alors le sud, on utilise tournesol. Après, quelquefois, le ghee aussi. Mais le nord, on utilise beaucoup du ghee.
D'accord.
Mais après, on utilise beaucoup l'huile de tournesol.
D'accord, oui.
Et même, par exemple... la région de Gilgit-Baltistan, on utilise beaucoup différentes huiles de abricot. On peut dire ça, walnut.
De l'huile d'abricot, alors ça, j'ai jamais entendu parler, c'est intéressant. C'est une huile qui a une saveur particulière.
Alors, effectivement, un petit goût particulier, mais c'est très très bon pour la santé.
D'accord. Alors le Gilgit-Baltistan, je précise pour les auditeurs, hein, c'est une région tribale du Pakistan. D'ailleurs, je crois qu'il y a quatre grandes régions tribales au Pakistan qui sont un peu comme des gouvernements, pas des gouvernements indépendants, mais qui sont un petit peu des régions autonomes, c'est ça?
Oui, exactement.
Et ces régions ont des gastronomies chacune assez particulières, j'imagine.
Exactement, ils mangent beaucoup de grillades, ils fabriquent beaucoup de choses chez eux, en fait. Donc c'est très bio, c'est très bien pour la santé. Il y a moins de population, par exemple, là-bas. C'est pas des grandes villes, donc c'est très très bon pour la santé.
D'accord. Alors, en Inde, parce que c'est vrai que les gens connaissent plus l'Inde, la gastronomie de l'Inde en général. L'Inde, selon qu'on est au nord ou au sud, on mange plutôt du riz ou plutôt du pain, des galettes. Au Pakistan, est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'il y a des régions qui sont plus riz et d'autres plus galettes? Et quels sont les types de pain qu'on mange au Pakistan?
Alors, il y a différents types de pain qu'on mange au Pakistan. Par exemple, le chapati. Ça s'est fait avec farine du blé complet.
C'est les galettes non levées, les chapatis. Hein.
Voilà, ça c'est le chapati. Le petit pain, le très fin, ça s'est fait avec du farine blé complet. Après, il y a le paratha. Paratha, ça s'est fait avec du farine normale.
Ah non, farine normale, d'accord.
C'est la farine normale, mais avec beaucoup d'huile.
Ok.
Avec beaucoup de ghee, par exemple. Après, on a d'autres pains avec du lait aussi.
Ah, ça, c'est oui, qui doivent être un peu plus moelleux, un peu plus briochés, comme on dit
voilà,
en France.
Voilà, exactement. Alors, exactement. Et après, ça dépend avec quel repas on mange différents pains. Donc, chaque fois, quelquefois, ça peut nous arriver que, par exemple, si on mange paella,
d'accord,
le plat que je vous ai parlé,
oui,
on mange différents types de pain avec ça. Et par exemple, s'il y a un curry ou s'il y a un lentille, on préfère manger ça avec différents types de pain.
D'accord. Bon, alors, on a découvert un peu plus grâce à vous, on a un petit peu un espèce de polaroid d'instantané de la cuisine pakistanaise. On va rentrer un peu plus dans le détail des traditions du ramadan au Pakistan dans la deuxième partie. On va faire une petite pause et on se retrouve tout de suite après. Si vous voulez intervenir et poser des questions, vous nous appelez au 01 53 48 3000. Aujourd'hui, le Tour du Monde a posé ses valises au Pakistan.
Tour du Monde revient dans un instant.
Suivez Tour du Monde avec le renard, semoule, farine et couscous.
18h, 19h. Tour du Monde avec Manuel Mariani sur Beurre FM.
De retour dans le Tour du Monde aujourd'hui consacré aux traditions du Ramadan au Pakistan, un très beau pays. Et pour en parler avec nous, on a Zain Sakhrani qui est attaché touristique de l'ambassade du Pakistan. On a parlé un petit peu des généralités la cuisine pakistanaise dans la première partie. Si vous avez des questions à nous poser, 01 53 48 3000, je répète 01 53 48 3000, on vous dit tout aujourd'hui sur la cuisine pakistanaise et la tradition culturelle et culinaire du Ramadan au Pakistan. Alors d'ailleurs, une question Zain, au Pakistan, est-ce qu'on dit ftour, est-ce qu'on dit iftar pour la rupture du jeûne? Ou est-ce qu'il y a un autre terme encore? Iftar.
Non, on dit iftar, oui.
D'accord, donc comme effectivement au Moyen-Orient. Alors, est-ce qu'au Pakistan, bon, c'est vrai que c'est un précepte coranique, hein, on rompt le jeûne en mangeant une date, est-ce que c'est le cas également au Pakistan? Et qu'est-ce qu'on mange d'autre après la date, si on mange une date pour le jeûne?
Alors, exactement, quand on ouvre notre jeûne, on commence avec un date. Avec une date et après on boit du lait. Et après on a différentes choses. Par exemple, on a un plat qui s'appelle pakora. Pakora, ça c'est
un beignet, une espèce de beignet, c'est ça. Hein?
Voilà, exactement. On mange beaucoup de fritures pendant l'iftar. Ça c'est un plat que vous allez trouver dans chaque table. Ça c'est fait avec un farine de pois chiche, avec des oignons, quelquefois avec les pommes de terre. Donc ça, c'est très populaire.
Ouais, il y a les bangan pakora.
Bangan pakora aussi, par exemple, avec différents légumes, par exemple, avec des oignons aussi.
D'accord. Et d'ailleurs, vous nous avez parlé de ce fameux fromage pakistanais, le panir. On mange beaucoup de panir pakora, je crois. Hein.
Exactement. On mange beaucoup de panir dans le. On mange. En fait, on n'utilise pas panir avec un pakora, mais plus dans le samosa.
Ah, samosa, oui.
Exactement. On mange beaucoup de samosa aussi. Vous allez trouver dans chaque table avec des légumes, bœuf haché ou du poulet ou du fromage dedans.
Oui, et du veau parfois aussi. Alors j'ai vu sur des tables pakistanaises des samosas de veau. Alors ouais. c'est vrai que est-ce qu'on mange beaucoup de veau au Pakistan?
Oui, on mange beaucoup de veau aussi au Pakistan. Il y a plusieurs plats. Donc après, par exemple, pakora, on a les spécialités des boissons au Pakistan.
D'accord.
Ça, c'est très typiquement pakistanais aussi. Donc les boissons, on a par exemple, on mélange un sirop du rose avec beaucoup des herbes, oui. Avec de l'eau. Ou par exemple avec du lait. Donc on mange beaucoup on boit beaucoup de lait aussi au Pakistan.
C'est du lait, voilà. C'est du lait classique ou c'est du lait fermenté? C'est quel type de lait?
Alors ça c'est du lait classique. Ça c'est
d'accord.
Du lait classique. Donc ça c'est un boisson. Deuxième boisson, ça c'est lassi. Lassi, ça c'est du lait mélangé avec du yaourt et de l'eau, avec un parfum du mangue ou du rose ou différents parfums.
Ouais, qui peuvent être salés ou sucrés d'ailleurs, les lassis, hein, c'est ça?
Exactement, exactement. Donc ça dépend, ça pourrait être naturel, salé ou sucré.
Oui, d'ailleurs, naturel, ça ressemble un peu au lben qu'on trouve au Maghreb, qui est effectivement aussi une boisson très, très agréable et très rafraîchissante. Oui.
Exactement. Il y a un autre plat qui est très, très typique, ça c'est le salade du fruit. Alors, salade de fruits, on mélange beaucoup de fruits avec des épices.
D'accord.
Donc ça, c'est vraiment typiquement pakistanais. Même dans le salade de fruits, on mélange des épices, du gingembre ou des piments.
Ouais, ou on peut mettre de la cannelle, j'ai
exactement,
vu ça aussi.
Exactement, cannelle ou cardamome, oui.
Alors, il y a des fruits qui sont très à la mode pendant le Ramadan, c'est les mangues, les melons, les pastèques. Donc,
exactement.
Des fruits dans lesquels il y a beaucoup d'eau et beaucoup de vitamines. J'imagine que c'est pour tenir un petit peu le jeûne le lendemain. Tout ce qu'on a décrit, effectivement, bon, la date, les boissons, les pakoras, les samosas, et puis ces fruits. Alors c'est vrai que dans beaucoup d'autres pays, on va partir ensuite éventuellement manger dehors ou autre. Alors que au Pakistan, je crois qu'après cette première partie de ftour, on va à la mosquée prier en famille. Ou alors on prie sur le toit des maisons, mais après on se remet à table. Alors expliquez-nous un peu comment ça se passe.
Alors, après, dès le tard, on rassemble avec leur famille, par exemple, dans la maison ou dans les mosquées, par exemple. On mange ensemble et après, par exemple, si on est dans la maison, on peut partir dans les mosquées pour prier, ou si on est dans la mosquée déjà, on peut prier là-bas. Et après, pour faire le iftar, il y a une petite pause et après, on fait un grand dîner.
D'accord, là on attaque les plats de résistance, on va dire, plus ou moins.
Alors exactement, on attaque les grands plats chez nous que les femmes elles préparent pendant des heures et voilà. Et après les soirées comme ça pourrait être avec des amis, avec des voisins, avec des familles, donc tout le monde s'invite entre eux et les soirées comme ça peut durer jusqu'à Sahour. Il y a des soirées qui sont organisées aussi pour faire le prière.
D'accord.
Voilà. Donc au moins on fait le on prie et voilà.
Donc on alterne prière et repas. C'est un marathon religieux et culinaire tout au long de la nuit en fait.
Exactement. En fait, c'est un mois, c'est 30 jours et très, très festif, en fait. C'est un mois de partage, c'est un mois très convivial, très, très chaleureux.
Ouais. Est-ce que le ramadan se fait... on a vu qu'on sortait éventuellement pour aller à la mosquée, mais est-ce que finalement la période du ramadan, on reste beaucoup à la maison, en famille, ou est-ce qu'on sort, on va voir des amis, des cousins, on va voir des voisins dans le quartier, comment ça se passe un petit peu, parce qu'il y a les petites boutiques de street food, elles sont pleines, il y a la queue tout le temps pendant le ramadan, pendant la nuit, donc j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui sortent, mais est-ce que c'est vraiment traditionnel?
Oui, et c'est très très traditionnel en fait pendant ces jours-là, c'est très festif. Donc les gens, ils sont pas chez eux normalement. Les jeunes, ils sortent beaucoup. Après, les familles, par exemple, quelquefois, ils organisent les soirées chez eux. Ou après, il y a des grands événements qui sont organisés par des particuliers pour faire les prières ou par exemple pour faire le sahour ou pour faire le iftar. Mais même aussi pour le sahour, il y a les événements, il y a les événements. Pour faire le sahur. Donc normalement, les gens, ils sortent. Ils ne restent pas chez eux.
D'accord, oui. Donc on se déplace. Alors, voilà. les femmes femmes au foyer au Pakistan, elles commencent à préparer le repas du iftar plusieurs heures avant l'heure de l'Aden.
Exactement. Elles commencent à préparer plusieurs heures avant de iftar. Après, c'est pas que les femmes de foyer. Après, c'est les hommes aussi qui aident. C'est les hommes.
Ah, les hommes cuisinent aussi au Pakistan, parce que c'est vrai qu'il y a certains pays où on a fait par exemple, on a parlé du ramadan aux Comores. C'est vrai qu'aux Comores, un homme qui rentre dans une cuisine, il se fait sortir tout de suite. Il y a des. Alors, au Pakistan, on travaille. Alors, c'est vrai que d'ailleurs, il y a beaucoup de restaurants pakistanais ou indo-pakistanais à Paris où les chefs sont des hommes, et c'est vrai qu'ils cuisinent très très bien.
Exactement, sont toujours les hommes. Oui, au Pakistan aussi, il y a plusieurs hommes qui cuisinent. Et après, comme par exemple, pendant ces mois-là, on s'occupe des gens défavorisés et les gens dans les pauvretés. C'est ça, en fait, le concept du ramadan aussi. Donc, les hommes, ils sortent et après, ils cuisinent et ils partagent tout le repas entre les personnes défavorisées aussi. Donc tout le monde cuisine, c'est pas que les femmes de foyer qui cuisinent. Tout le monde aide, les enfants, les hommes, voilà.
Oui, donc très familial, voilà. Mais avec une ouverture sur l'extérieur, les amis, les gens.
Exactement.
Pauvres.
Exactement. Par exemple, quelquefois, c'est les femmes qui cuisinent et après, c'est l'homme qui prend tout le repas et qui distribue dans la rue. Donc c'est vraiment un partage.
D'accord. Alors, on m'a parlé d'un plat de poulet qui aurait des origines afghanes, mais qu'on mange beaucoup pendant le ramadan au Pakistan. C'est le changezi. Est-ce que vous connaissez ce plat changezi?
Alors, changezi, il y a beaucoup de plats différents au Pakistan par différentes régions. Je n'ai jamais mangé changezi, mais je vais faire ma recherche concernant ça.
D'accord.
Mais je n'ai jamais mangé changezi. En fait, moi, je viens du sud, vous voyez?
D'accord.
Du Karachi.
Très bien, oui. Donc vous êtes plutôt vous dans la cuisine Punjabi.
Exactement. Donc je connais plein de plats, différents plats du Punjab, du Sud. Après il y a plusieurs plats au Pakistan. Donc c'est vrai que j'ai jamais mangé changezi.
D'accord, bon, bah, on ira peut-être en manger un jour ensemble, si on trouve un endroit où on peut en manger. Alors autre plat qu'on retrouve beaucoup sur les tables du Ramadan, peut-être, le chana chat. Alors, je ne sais pas si je... Ça m'a intéressé, parce que c'est vrai que c'est la cuisine pakistanaise, c'est vrai qu'on a, on a l'image d'une cuisine qui est avec beaucoup de plats en sauce, beaucoup de riz sauté, comme les biryani, préparés avec des épices et de la viande ou des légumes. Mais on voit peu de salade. Alors ça, c'est une salade de pois chiches.
Exactement. Alors, c'est très, très populaire aussi au Pakistan. Chana chat, vous m'avez rappelé de ça, du Pakistan. Il y a du chana, il y a des oignons, il y a quelquefois aussi les pommes de terre, il y a du yaourt mélangé, il y a de papri, comme on dit papri, ça c'est des, du farine grillée aussi qu'on met dans ce salade.
D'accord.
Et des épices. Bien sûr, des épices.
Très bien. Alors ça c'est un plat très populaire pendant le Ramadan.
Exactement. Ça c'est très populaire pendant le Ramadan et même si c'est pas Ramadan aussi, c'est très très populaire. C'est dans le street food, c'est très très populaire.
D'accord. Alors.
Exactement.
Au Ramadan pour prévenir de l'heure de l'iftar et de l'adhan, il y a des sirènes dans les villes, c'est ça? Ou est-ce qu'il y en a dans les campagnes aussi, peut-être? Il y a des sirènes. Alors qu'est-ce qui se passe quand on entend la sirène?
Alors c'est vrai dans les villes de Karachi. Dans les différentes villes, il y a les sirènes le matin et le soir, mais même avant le sahur, il y a les sirènes pour se réveiller les gens, que ça
D'accord.
c'est l'heure de sahur et pendant l'iftar aussi, ça c'est l'heure de iftar. C'est plutôt dans le sahur pour se réveiller les gens, pour dire que voilà, ça c'est l'heure de sahur, il faut pas manquer le sahur quand même.
Oui, parce qu'il faut quand même pouvoir, si on se réveille après, effectivement, on risque d'avoir un petit peu faim pendant la journée. Mais bon, vous dites que effectivement, les gens sortent souvent pendant la nuit. Il y a beaucoup de dans les grandes villes, les restaurants, est-ce qu'ils proposent beaucoup des menus spéciaux pour le iftar, pour le sahur?
Alors, il y a beaucoup de promotions. Il y a chaque restaurant propose une nouvelle offre, une nouvelle promotion pour l'iftar. Et c'est une compétition en fait. C'est une compétition. Après, c'est une convivialité aussi. C'est très divers aussi au Pakistan. Donc, chaque restaurant de différentes régions, elle propose quelque chose. Elle propose une menu très particulière. En plus, je vais ajouter, j'ai oublié de mentionner tous les desserts du Pakistan. Ça,
oui.
C'est très populaire aussi.
Comme le jalebi, par exemple.
Exactement, le jalebi, par exemple, kheer aussi. Kheer, ça se fait avec du lait. On mange beaucoup du lait. Avec du riz, par exemple. Il y a halwa, du carotte. Ça, c'est typiquement pakistanais. Ça, c'est du carotte haché avec du sucre et du lait aussi. Gulab jamun.
Ah, gulab jamun, ça, c'est les boulettes de lait frit. Avec une
Exactement.
Sauce, avec un caramel, une espèce de caramel, un sirop, on va dire.
Exactement, un sirop du sucre.
Ça, c'est très, très bon, effectivement.
Exactement. Donc, juste pour ajouter, c'est que le dessert aussi, c'est très, très important au Pakistan.
Ouais. Alors, vous parlez d'une cuisine assez riche, hein, en période de Ramadan, beaucoup de fritures. J'ai l'impression que hormis le plat qu'on prend après la première prière à la mosquée après le ftour, j'ai l'impression que tous les plats qu'on prend, c'est un peu ce qu'on appelle la finger food, c'est des snacks. On mange beaucoup de petits beignets de ceci, un petit rouleau de cela. Avec plein de petites sauces, est-ce qu'on, en fait, on grignote beaucoup, c'est ça? On mange plein de petites choses différentes?
Alors, tous les finger food que je vous ai parlé, ça c'était pendant le iftar.
Iftar, mais d'accord.
Je vous ai pas parlé de dîner. Donc, pendant le dîner, on prépare différents plats.
Oui.
Donc, le plat principal, on peut dire aussi, ça c'est le biryani qui est très très populaire avec du curry et avec du riz basmati. Ça, c'est le premier plat. Le deuxième plat aussi, c'est le korma. Korma, ça c'est un curry avec
un curry à la crème, c'est ça. Hein.
ça pourrait être avec la crème aussi, mais sans un crème aussi. Ça dépend de la région, ça dépend, c'est vrai. Ça dépend de la famille. Donc courma, ça c'est très très populaire aussi. Après barbecue, barbecue c'est très populaire.
D'accord, ça j'adore.
Voilà, donc ça c'est les plats qui sont principaux. Après il y a plusieurs plats, voilà.
D'accord. Bon, on a fait un petit tour d'horizon. Bon, en troisième partie, vous allez nous dire un petit peu quels sont vos plats préférés, vous, dans la cuisine pakistanaise, et nous dire un petit peu en quoi il consiste. Puis on essaiera après sur la page du podcast, du replay de l'émission, de vous donner ces recettes avec des jolies photos. Mais on va faire une petite pause. Si vous voulez nous appeler pour poser des questions sur la tradition du Ramadan et le ftour au Pakistan, vous appelez au 01 53 48 3000. À tout de suite.
Ftour du monde revient dans un instant.
Suivez Ftour du monde avec le renard, semoule, farine et couscous.
18h-19h, Ftour du monde avec Manuel Mariani sur Beurre FM.
De retour dans le Ftour du monde. Aujourd'hui, nous avons posé nos valises au Pakistan et on parle donc des traditions culinaires et culturelles du Ramadan dans ce pays pas toujours très connu, hein, qui est le Pakistan, avec notre invité Zain Sakrani, qui est attaché touristique de l'ambassade du Pakistan. Alors, pendant la pause, Zain, j'ai eu une question d'une auditrice sur les réseaux sociaux, qui s'étonne, parce que c'est vrai que dans la tradition, dans les grands pays musulmans, c'est vrai que souvent, le Ramadan, ça rime avec la soupe. Et nous, on n'a pas parlé de soupe depuis tout à l'heure. Alors, c'est vrai qu'on a parlé de cuisines différentes selon les régions. C'est vrai que dans le sud ou à l'est, côté Pendjab, vers Lahore, là, une région qui est plus la vôtre, on mange pas forcément beaucoup de soupe. Mais quand on va tout à fait au nord, je crois, vers Chitral, Gilgit, par là, on mange une soupe qui s'appelle le lagman, enfin qu'on appelle le kali là-bas, c'est ça?
Oui, exactement. C'est vrai que le nord, on mange une soupe avec du farine, avec des pâtes, du farine, avec du soupe, avec des légumes, quelquefois avec du viande aussi. C'est vrai. Oui, on mange beaucoup de soupe là-bas.
Alors là, on est pratiquement à la frontière afghane. Est-ce qu'il y a des influences aussi de la cuisine afghane, qui est un petit peu plus une cuisine d'Asie centrale? Est-ce qu'il y a des influences également sur la cuisine pakistanaise, parce que elle est entourée par des pays où il y a effectivement une grande gastronomie, hein. Il y a l'Afghanistan, au nord il y a le Tadjikistan, il y a la Chine pas loin, l'Inde. C'est une situation intéressante par rapport aux influences.
Oui, exactement. Alors, par exemple, dans la région de Kirkheb-Pakhtunkhwa, on mange beaucoup de grillade aussi, on mange du riz qui est fait avec du lot qui était bouilli avec du viande.
D'accord.
Donc ça s'appelle normalement khapsa aussi, qui vient de Moyen-Orient. Mais c'est vrai qu'exactement, c'est pas le même goût. Mais oui, on fait là-bas. Et après, je vais ajouter aussi pour le soupe, par exemple, le soud et aussi même le Punjab. On fait un soupe qui est fait avec de l'eau bouillir avec un poulet.
D'accord. Un bouillon, c'est plus un bouillon en fait, c'est ça?
Bouillon avec un poulet, oui, exactement. Un bouillon de poulet ou un bouillon avec du bœuf ou d'agneau. Donc ça dépend, oui, on mange beaucoup dans le Punjab et le Soud aussi.
D'accord, alors si dans les pays du Maghreb, on fait souvent des soupes avec de la lentille, par exemple, ou des légumineuses, je crois que dans la cuisine pakistanaise, les lentilles, par exemple, ça va plus dans des sauces, dans des currys. Est-ce qu'il y a malgré tout des soupes avec de la lentille ou des pois chiches dans la cuisine pakistanaise?
Alors, on fait pas comme un soupe, on fait pas les lentilles comme un soupe, mais c'est plus épais. C'est
d'accord,
plus
oui.
Épais avec un beurre ou quelquefois avec du panier ou du ghee, mais c'est pas comme un soupe.
D'accord. Alors, on va parler, parce que vous êtes quand même attaché touristique de l'ambassade du Pakistan. D'ailleurs, si vous avez un jour un projet, quand on sera un peu éloigné de l'épidémie de coronavirus, si vous avez pour projet d'aller voyager au Pakistan, vous pouvez appeler Zain pour lui poser vos questions au 01 53 48 3000. J'imagine que les gens visitent beaucoup, les touristes visitent beaucoup les mosquées au Pakistan, parce qu'il y a quand même des très très belles mosquées.
Exactement. Alors, le Pakistan, c'est pas que les mosquées, mais le Pakistan, en fait, concernant la religion, il y a beaucoup de diversité au Pakistan. Donc, il y a beaucoup de mosquées, il y a beaucoup des temples sikhs aussi, des temples hindous aussi au Pakistan. Dans le sud et même dans le centre. Par exemple, si je parle de mosquée, il y a un Badshahi Mosque qui est situé dans le centre à Lahore. Donc ça, c'est très, très populaire aussi. Le sud aussi, il y a beaucoup de temples qui datent de très, il y a longtemps. Donc oui, concernant la religion, il y a beaucoup de diversité au Pakistan.
D'accord. Alors, il y a une mosquée qui est assez réputée aussi. En plus, je crois que c'est dans votre région. C'est la mosquée de Bong.
Le mosquée de Bong.
Oui. Je dis une bêtise. Hein, je le prononce peut-être pas bien. Dans le village de Bong, c'est une mosquée qui a gagné un prix d'architecture de l'Aga Khan en 86.
Alors, c'est vrai que je ne comprends pas ce mot. Le Bong, peut-être, je ne suis pas familière de ce mot.
D'accord. Bon. Alors, autre mosquée peut-être, oui. La mosquée Al-Kawthar.
Oui, par exemple, même les mosquées, mais aussi dans le nord, par exemple, il y a les chaînes de montagnes, oui. De l'Himalaya et des Karakoram, qui sont plus 7000 mètres de l'altitude aussi. Par exemple, dans le sud aussi, il y a les plateaux arides dans le Balochistan. Au sud. Aussi, par exemple, il y a le paysage désertique du Thar aussi dans le Sindh. Aussi, par exemple, au Pakistan, il y a les grandes riches. C'est très riche concernant les paysages. Hein. Dans différentes régions, il y a différents paysages aussi. Donc, c'est vrai que c'est très riche. Même les différentes ethniques, différentes langues, différentes gastronomies, différentes façons de s'habiller aussi. Donc, il y a beaucoup de variétés.
D'accord. Et alors, on parlait un peu effectivement de tourisme. Quelles activités touristiques on peut trouver au Pakistan, hormis les nombreuses mosquées qui sont très belles à visiter, qui pour certaines sont d'ailleurs vraiment majestueuses. On parlait de la mosquée Al-Kawthar, elle a un dôme qui fait 30 mètres de hauteur sur 15 mètres de diamètre. Hein, donc c'est vraiment un joyau de l'architecture islamique. Qu'est-ce qu'on peut découvrir d'autre au Pakistan? Quelles activités? J'imagine que les activités sont très diverses selon si on va dans les villes ou si on va dans les montagnes au nord. Qu'est-ce qu'on peut... Et d'ailleurs, est-ce que dans toutes les régions, on peut voyager sans danger, ou est-ce qu'il y a des régions où il vaut mieux éviter d'aller? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça?
Alors, par exemple, il y a différents festivals au Pakistan. Il y a du ski au Pakistan aussi pendant l'hiver. Malam Jabba, il y a du ski aussi, donc vous pouvez réserver sur ça concernant ça aussi. Il y a une autre région qui s'appelle Chitral aussi, où il y a la région de Kalash aussi. Il y a une ville de Kalash, les peuples de Kalash qui sont vraiment leur culture, leur religion, leur façon de vivre, c'est vraiment très différent aussi. Donc eux aussi, ils organisent différents événements pendant l'année. Donc les gens, ils peuvent visiter ça aussi. Donc ça, c'est complètement safe, il n'y a pas de souci. Le Karachi aussi, c'est une grande ville. Si vous voulez visiter les grandes villes, il faut venir à Karachi ou Lahore. Où vous pouvez voir les grandes villes, les grands supermarchés, vous voyez les grands centres commerciaux. Mais si vous voulez visiter la nature, si vous aimez plus la nature...
Oui, parce qu'il y a des étendues de nature incroyables au Pakistan, parce que c'est quand même le sixième pays le plus peuplé au monde, donc c'est un pays qui est grand. Donc on a la mer, on a la montagne, on a la plaine.
Exactement. Donc pour la nature, vous pouvez aller dans le nord. Par exemple, si vous voulez visiter les montagnes, il faut aller dans le nord. Si vous voulez visiter les déserts, il faut venir dans le sud-est. Si vous voulez visiter les plages, vous pouvez aller dans le sud-ouest,
oui.
Dans la région du Balochistan. Donc c'est vrai, c'est très très divers.
C'est la deuxième plus forte majorité musulmane après l'Indonésie, le Pakistan. Est-ce que le pays est ouvert aussi aux autres religions ou est-ce que c'est majoritairement musulman et on parle pas du reste?
Non, c'est pas comme ça en fait. C'est vrai que au Pakistan il y a 95% des musulmans, mais on a aussi des chrétiens, des hindous, des bouddhismes aussi. Donc le pays c'est ouvert pour tout le monde. Et il y a aucun problème. Après c'est vrai, dans quelques régions il faut avoir un papier par le gouvernement et vous pouvez entrer avec ce papier.
D'accord. Ouais, donc la cuisine est métissée, mais la culture aussi, donc, d'après ce que vous nous dites. Bon, en tous les cas, là, on arrive, hélas, bientôt au bout de l'émission. Alors, peut-être, vous qui êtes un spécialiste de la cuisine pakistanaise, plus que nous, parce que c'est vrai qu'on a, notamment dans le 10e arrondissement, par exemple, il y a beaucoup de restaurants dits indiens, mais souvent, ils sont tenus par des Pakistanais, ou parfois par des Sri Lankais. Est-ce qu'il y a des bons restaurants pakistanais? Pakistanais, vraiment 100% pakistanais à Paris.
Alors, c'est vrai que si vous voulez visiter vraiment des plats pakistanais, il faut vraiment venir au Pakistan. Et pour venir au Pakistan, vous pouvez venir à l'ambassade du Pakistan. On a un bureau de tourisme à l'ambassade du Pakistan. Donc vous pouvez venir, vous pouvez me contacter concernant ça. Mais aussi, si vous voulez visiter un beau restaurant pakistanais ici à Paris, vous pouvez aller à New Javad. New Javad, c'est un restaurant qui est vraiment très, très gastronomique.
D'accord, oui, on avait reçu effectivement le consul... donc Adil, qui est le consul du Pakistan en France et qui nous avait parlé également de ce restaurant. Bon, on arrive au terme de l'émission. Zain, merci beaucoup de nous avoir fait découvrir un peu mieux et connaître un peu mieux le Pakistan. J'espère qu'on refera une émission un petit peu plus longue ensemble bientôt pour parler peut-être d'un aspect plus touristique que gastronomique.
Avec plaisir.
Et donc, restez avec nous pour la suite des programmes. Tout de suite, c'est Philippe Robichon avec Ramadan & Co. Et aujourd'hui, c'est une spéciale Ramadan des enfants. Restez avec nous, vous retrouvez Philippe Robichon dans quelques minutes.
Retrouvez Tour du Monde tous les week-ends de 18h à 19h sur Beurre FM et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.
C'était Tour du Monde avec le renard, semoule, farine et couscous, numéro 1 de mère en fille depuis plus de 50 ans.